Curriculum Vitae.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Danny Benz au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission et je me retrouve encore avec Steve Lemoine qui a créé, fondé, dirige toujours l'organisme l'AVS. Bonjour monsieur Lemoine.
Bonjour.
Comment est-ce que vous présentez AVS?
AVS, comment je la présente, mon Dieu, ben le titre le dit, c'est alternatives de vie, c'est d'offrir des alternatives de vie ou en tout cas de démontrer qu'il y a des alternatives de vie qui sont possibles. Et puis éveil social, il faut s'éveiller. Notre société qui est un peu malade présentement là, puis que ça soit n'importe où là, c'est un peu le même constat qu'on fait. Puis je trouve que nos jeunes les jeunes sont beaux, ils demandent juste d'être dynamiques et puis mais faut leur donner quelque chose,
les réveiller,
à croquer là, tu sais, puis à les éveiller à des choses.
On s'est laissé la dernière fois que vous étiez en compagnie de Guylaine et de votre jeune bébé, je sais pas quel âge elle avait, pour vivre cette expérience missionnaire laïque au Nicaragua. Est-ce que vous parliez déjà espagnol?
Eh non.
Non. On apprend sur le temps.
Oui. Mais moi, je suis plus autodidacte. Ma femme, elle, beaucoup plus style école, là, plus académique et tout ça, structurée, c'est ça.
Oui.
Et puis elle a appris des cours, là. Tu sais, elle a pris des cours avant, mais ça veut pas dire qu'elle en a parlé énormément. Mais moi, j'ai appris sur le terrain.
Ouais. Et vous faisiez quoi de vos journées?
Ben, on participait à toutes les activités. Mais en fait, ce qu'on nous a dit, prenez 3 mois quand vous arrivez, prenez 3 mois pour vraiment regarder ce qui se fait, puis peut-être dire, bon, ben là, moi, je me sentirais à l'aise de m'impliquer dans ça, puis dans... Alors, je me suis senti à l'aise probablement pour m'impliquer pas mal dans tout, sauf la danse. Ah non, ça, non, c'était pas question pour moi. Ils ont enserré de moi là-bas, fait que... Je continue pas là-dedans, mais l'école d'agriculture. Mon principal travail, c'était de constituer une équipe nicaraguayenne pour recevoir des stagiaires.
OK.
Puis bon, les visites, puis bon, toutes ces choses-là. Ça a été le principal travail, mais je me suis impliqué dans à peu près tout. Je me suis retrouvé un peu à remplacer même le Padre Santiago, qui quand il a pris ses vacances pour s'en revenir ici pendant 2 mois, un petit peu à le remplacer parce que la population nous donnait un peu ce pouvoir-là, là. Mais c'était pas dirigé, là. C'était pas dit, Steve, il me remplace, là, mais bon. En tout cas, ça s'est placé de même. Mais c'est ça. Puis ce qui m'a amené à créer AVES, c'est vraiment le contact avec les jeunes quand ils arrivaient et débarquaient de l'aéroport. Puis quand on tournait, là, je voyais que les yeux, c'était plus la même affaire, là. C'était plus brillant, c'était plus... Il y a quelque chose, là, qui ont allumé, là. Puis dans ce temps-là, dans les années 97-18, on parlait un petit peu plus de politique. C'était plus... aujourd'hui, ça se parle moins un petit peu, là. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, ça a des conséquences, puis la politique a des conséquences sur tous nos projets de vie. Mais on dirait qu'aujourd'hui, la politique, c'est sale. C'est, faut pas en parler. C'est le contraire. Faut en parler plus qu'avant, même.
Donc, vous avez réfléchi à finalement avoir une organisation qui soutiendrait ces jeunes-là. C'était des jeunes du secondaire, du niveau cégep.
C'est secondaire, cégep, c'est universitaire. Ça, c'est au début. Oui. Maintenant, on a pour les adultes aussi. Puis les familles.
Oui.
Tout entière, là. Oui. Pour justement nommer des valeurs qu'on ben faut avoir des places pour en parler.
Oui.
Si on n'en a pas puis échanger là-dessus, ben ça s'éveille pas beaucoup. Puis en même temps, travailler dans les communautés avec la dignité humaine. Puis pas avoir peur de de foncer, puis d'aller les voir, puis d'aller les rencontrer, créer des ponts, puis faire le mieux ensemble.
Donc, vous étiez là-bas tout en prenant des notes, oui. Et à vous dire, là, il va falloir ajouter une maille dans la chaîne, là.
C'est ça, la vie.
Il faut des rires, il faut des pleurs, faut des fleurs pour se souvenir qu'on a eu des jours meilleurs. On dit qu'après le pire, qu'après la peur, il y a cette chance à saisir. Mais quel est le prix du bonheur? Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme? Explose mon cœur, explose mon âme, rester dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur. Mieux vaut en rire, mieux vaut mon cœur, faudra faire avec les sourires ce qui masque la douleur. On dit qu'après l'orage, se dégage, qu'il faut savoir tourner les pages. Comme dit l'adage, il n'y a pas d'âge. Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme, pour enfin ne plus avoir peur. Explose mon cœur, explose mon âme. J'ai peur du vide, j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur des rires qui décomptent nos heures. Explose mon âme, c'est dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur. Combien de rires, combien de larmes, combien d'années de malheur faut-il pour que mon cœur s'enflamme, pour enfin ne plus avoir peur. Explose mon cœur, explose mon âme, rester dans le noir des heures, pour enfin ne plus avoir peur, pour ne plus jamais avoir peur.
C'est une chanson puissante,
Steve
LeMoine, que vous nous proposez.
Ça,
là,
c'est mon CV.
Mais oui, c'est ne plus avoir peur, ne plus avoir peur du noir. C'est quand même assez récent comme
oui,
chanson.
Oui, tout à fait. Ça a été une découverte. Puis, mon Dieu, que j'ai écouté ça.
Ouais.
Puis, on allait en vacances, moi et Guylaine, on écoutait ça en s'en allant. Et puis, elle, ça la pognait à chaque fois. Mais mon Dieu, que ça me représente.
Ouais.
Ça prend quoi pour m'enflammer mon cœur?
Ouais.
Ben, ça m'en prend, là, mais ça m'en a pris, puis je l'ai enflammé beaucoup.
Au Nicaragua, là, ça s'est passé.
Nicaragua, mais tu sais, aujourd'hui, on travaille avec quand même 5 pays différents, là.
Mm-hmm.
Mais tu sais, d'autres causes encore. Il y a 50 millions de personnes qui meurent de faim à chaque année encore, ouais, aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est une injustice incroyable. Ouais. On sort dans la rue pour protester contre la part du masque, des choses comme ça, puis on n'est même pas capable de protester pour des humains qui survivent. Hein? C'est la pire torture, ça, hein? Mourir de faim, apparemment, que c'est incroyable. Mais il y a tant d'injustices.
Oui. Donc, vous êtes revenu de cette aventure-là avec ce projet-là que vous vouliez mettre en place. Vous avez trouvé des alliés.
Oui, oui.
Vous avez formé une équipe. Comment ça s'est passé, la mise en place?
Ben, en fait, c'est des gens que j'ai connus sur le terrain là-bas, tu sais. Moi, je recevais des groupes, puis là, ben, il y en a qui étaient intéressés à continuer, surtout des accompagnateurs, là. Bon, au fur et à mesure, moi, je suis revenu au Québec, puis j'ai dit ça, il faut absolument faire vivre cette expérience-là au plus grand nombre de jeunes, au moins possible. Et on a été deux au début, là, pour dire qu'on était vraiment impliqués dans tout, là. Les autres étaient plus là pour nous appuyer. Et puis, après 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans, je suis tombé pas mal tout seul. Là. Faut gagner notre vie. Pendant ce temps-là, Guylaine gagnait ma vie.
Oui, c'est ça.
Pendant 7 ans. Ça a été... on n'avait pas d'argent, là. Bon, on a commencé à zéro. Fait que quand on veut... Il y a des limites, là, à dire ça, mais quand on veut, on est capable de faire pas mal d'affaires, tu sais, finalement. Puis 25 ans plus tard, on est encore là aujourd'hui, tu sais. Puis on a accompagné à peu près 2500 jeunes et moins jeunes maintenant, là, parce qu'on sait ça depuis à peu près 4-5 ans. Là.
Les jeunes là que vous appelez les stagiaires.
Oui,
là,
oui.
Bon, qu'ils soient au niveau fin secondaire, cégep ou universitaire, on forme des groupes et ils partent pour combien de temps?
Ben, c'est variable. Okay. 2 semaines, à peu près 10 semaines. C'est dépendant des styles de stage. Il y a des stages plus techniques, ça c'est un peu plus long. Des stages qui sont plus de sensibilisation, en ce moment-là, c'est un petit peu plus court, 2-3 semaines.
Des stages d'observation?
Plus d'observation, mais plus de tu sais, mon premier objectif, c'est qu'ils rentrent en contact avec les communautés. C'est pour ça qu'ils vont vivre dans les familles. Ça, c'est bien important. C'est ce mélange-là d'idées, de concepts, de préjugés qu'on a aussi, là. Les préjugés, c'est pas mauvais non plus d'en avoir, parce que c'est de même qu'on juge puis qu'on avance, hein. Puis après ça, ben, on les défait ou on les fait, bon, selon. Et c'est vraiment de rentrer en contact avec les gens, garder ce contact-là, parce que ça fait 500 ans qu'ils se font dire, c'est surtout des Autochtones avec qui on travaille, là,
oui.
Pour une précision. Là.
Oui.
Nicaragua, non, mais bon, la plupart, c'est des Autochtones, Maya, Quechua, et ça fait 500 ans qu'ils se font répéter qu'ils sont rien. Alors là, il y a des Blancs qui arrivent, le Blanc, là, t'arrives là-bas, t'es tout de suite en haut, là. T'as pas de preuve à faire, t'es là. Ça aussi, c'est des pièges. Là, il y a des jeunes qui s'informent, qui s'intéressent à leur culture, à leur façon de faire les choses. Puis, mon Dieu, ça travaille l'estime de soi, ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais surtout si on garde le contact après. Puis ça, c'est...
Oui. Donc, le concept, c'est que vous réunissez ces jeunes-là, puis ils sont logés chez l'habitant.
Oui.
Ils sont accueillis dans des familles.
Exact.
Tant pis si l'espagnol n'est pas si bon que ça, on se débrouillera.
Normalement, c'est pas la première, mais ils se défendent, puis à un moment donné, tu sais, ben, on apprend avec les gestes, puis les échanges, puis les rires. Ah ben là... Ces gens-là, ils demandent que ça, rire, sourire, et fait que ça fait une communication. Puis les jeunes reviennent avec une autre idée là de la famille, puis élargie là.
Ouais.
C'est ça qui ressort le premier ici là quand ils reviennent. Puis ben c'est sûr qu'il y a une implication communautaire là-bas parce qu'il y a plein de projets qu'on fait, mais des projets à dimension humaine qui sont capables de gérer. On a déjà fait un projet qui était beaucoup plus gros. Ça a fait comme un peu briser la communauté parce que nous autres, on est plus avancés étant donné qu'on a un gros centre communautaire maintenant. Fait qu'ils ont laissé aller tous les autres groupes de femmes. Alors j'ai dit, regarde, on apprend de nos gaffes, là. Mais non, on va y aller pas par pas.
Donc, dans 5 pays, vous pouvez les nommer?
Le Mexique, le Guatemala, le Costa Rica, l'Équateur et le Pérou. Mais on a été dans d'autres pays aussi, même au Mali, en Afrique. Mais là, la situation politique nous emmène un petit peu ailleurs. Là.
Effectivement. Mm. Et donc, depuis plus que 25 ans maintenant que l'organisme avait est sur pied, il y en a combien de jeunes qui sont partis?
À peu près 2005. On a calculé, parce qu'au début, on faisait pas aucun calcul, on pensait pas à ça. Moi, j'ai pas créé l'organisme AVES pour qu'il devienne fort de créer l'occasion. C'était vraiment ça. Puis de toute façon, nos structures finissent par tomber, c'est d'autres qui prennent des relèves. Fait que c'est pas ça qui est le plus important, c'est vraiment le message. Puis qu'est-ce qu'eux autres vont rapporter? On dit tout le temps, c'est des ambassadeurs, hein, au retour. Mais c'est vrai, là.
Et est-ce qu'il y a des rencontres prévues au retour? Parce que
oui.
Il y a eu le choc culturel, le choc de prise de conscience.
Ouais.
Il y a eu tout ça?
Oui. Mais ça aussi, ça a changé avec les années.
OK.
Aujourd'hui, les jeunes sont tellement pris par le sport, par la danse, par je sais plus trop quoi, qu'ils ont des horaires épouvantablement chargés. Et ça, avoir un temps commun, presque impossible. Avant, on pouvait.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.
Dans tout le répertoire de la chanson francophone, il n'y en a pas une plus belle que celle-là pour décrire une relation père-fils?
Ah, mon Dieu. Ah non, c'est sûr. Puis encore là, c'est d'une chanson qui ressemble à la relation que j'avais avec, oui, avec mon père.
Il était silencieux. C'était sa génération.
Toute la famille, en fait, toute la famille Lemoine, c'était ça à un moment donné. Lui, il parlait plus en groupe, mais c'était jamais quelque chose de personnel. C'était jamais quelque chose d'émotif. Ou c'était de la politique. Mais je me rappelle mon oncle. Ses frères étaient plus vieux que lui. Et puis, il se berçait. Puis pendant toute la journée ou toute la soirée qu'on était ensemble, pas un mot. Il écoutait la conversation des autres, puis tout ça. C'était un peu ça. Puis l'image du père un peu retiré malgré lui parce qu'il n'a pas appris à communiquer, c'est un petit peu pathétique, là, à quelque part. Et puis j'ai compris ça, moi aussi, vers la fin. Tu sais, j'ai un père que j'ai pas bien connu parce que j'ai pas posé de questions.
Ouais. Parce qu'il jasait pas beaucoup.
Il jasait pas beaucoup, mais il y avait une relation familiale assez complexe. Ma mère nous laissait pas non plus pas beaucoup communiquer ensemble. Tu sais, il y avait des problématiques où papa était alcoolique et puis maman avait une maladie qui était pas à ce moment-là diagnostiquée, là, tu sais, des maladies psychologiques là assez dépendante, là, totalement, oui, totalement, oui, des autres. Là.
Effectivement.
Dépendante. Ah, de tout, là, l'anxiété, oui, au plafond. Mais malgré tout ça, c'est ce qui m'a forgé pareil, c'est les résultats.
Et vous, tu sais, avez accompagné votre père dans ces derniers,
oui,
moments.
Oui, ça, c'était le cadeau qu'il m'a fait, oui, jusqu'à la fin. Il y a un petit quelque chose qui m'avait comme, ah, oh, ça, c'est... Ben, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu crois-tu en Dieu, tu sais? Puis ah, il dit non. Je crois pas en Dieu, pas en tout. Mais j'ai dit, tu crois pas qu'il y a quelque chose après? Il dit, non, c'est fini. Oh, ben, coudonc. Ben, j'ai dit, en tout cas, moi, c'est pas ça.
Oui.
Tu sais, mais malgré tout, tu sais, il m'a dit à la fin, toi, là, parce qu'il parlait pas beaucoup, il avait une trachéotomie. Il dit, t'es un bon fils. Là, ça m'a tout. C'est des petites foleries, c'est rien, là. Durant toute une vie,
oui,
il a vécu quand même 82 ans, puis
oui,
juste ça. Puis on sait, je l'aimais profondément.
Oui,
oui,
oui, ça s'entend bien,
oui.
Steve Lemoine. Il y a donc cet aspect-là de la foi, de la spiritualité. En préparant notre rencontre, vous m'avez fait comprendre qu'il y a un livre qui pour vous est important, intitulé « Quand la conscience s'éveille » du père Anthony de Mello.
Oui.
C'est un jésuite d'origine indienne.
Oui.
Très connu, ce livre-là.
Oui, 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 oui. Ben, il y a une série de livres là,
okay,
qui est assez connue. Lui, c'est pas un livre que tu lis d'une frappe, là.
Non, c'est pas un roman.
Tu,
hein,
prends un paragraphe et tu le lis quatre fois.
Oui.
Pour bien comprendre, parce que tu te dis, mon Dieu, faut s'aimer plus. Soit avant de commencer à dire on va aimer les autres. Tu sais, là,
oui,
c'est pas ça que j'avais appris, mais à quelque part, oui, c'est vrai. C'est des révélations à quelque part, puis c'est des choses simples. Puis le fait qu'on se fasse des amis, hein, souvent, là, on rencontre une personne, tu te dis extraordinaire, puis tout ça, puis là, elle est vraiment sur un piédestal. C'est sûr que tu la connais pas, fait que t'as pas ses défauts, mais c'est sûr qu'un jour, elle va descendre. C'est certain que moi, je vais décevoir l'autre, puis parce que, regarde, on n'est pas stable, puis on réfléchit pas toujours à ce qu'on fait. Fait que là, on est toujours déçu, mais t'as pas à être déçu. Tu devrais le savoir avant que quelqu'un arrive. C'est tout des messages.
Et ce livre-là, c'est de ça que ça parle?
Entre autres.
De la conscience, de la nature humaine.
C'est de la nature humaine,
ouais,
et tout. Fait que pour moi, c'est quelque chose, c'est un livre qui a été très important. Très important dans mon cheminement de réflexion.
Et, ouais, et puis il y a des personnes qui vous ont aussi beaucoup inspiré. Là, on,
oui,
pense à l'abbé Pierre, là, qui était.
Oui, ah oui.
L'abbé Pierre, le combatif, l'abbé Pierre...
Le défendant du plus démuni qu'il pouvait avoir, là, c'était... Oui, ça, moi, c'est un message extraordinaire de sa part, mais il y a tellement de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont des références. Il y en a qui nous ont un petit peu déçus en chemin.
Et Je voudrais qu'on parle un petit instant de ce photographe brésilien,
oui,
mondialement connu, Sebastião
Salgado,
qui œuvre dans la photographie noir et blanc avec un objectif toujours tourné vers la transmission de ce qui se passe sur Terre.
Ouais.
Il a fait des séries de films sur l'immigration humaine, sur le travail manuel épouvantable qui se pratique encore dans de nombreux pays. Et il a, avec son épouse, un projet de reforestation d'une partie d'une forêt du Brésil qu'il entretient depuis des années. Vous l'avez connu comment?
Et j'ai été photographe à un moment donné, moi, pendant 2 ans, pour Québécois. Alors, c'est pas de la grande photographie qu'on faisait, là. Mais à partir de ce moment-là, la photographie m'a vraiment intéressé. Puis, elle a changé complètement mon regard. À chaque fois que je regarde quelque chose, je regarde vraiment ce qui se passe. Vraiment ce qui est les détails à l'intérieur d'une photographie. Donc, ça a changé mon regard. Je te dirais que ça, à peu près dans les années 90, j'ai découvert ce bonhomme-là. Il y en a d'autres que j'ai découvert, mais lui, il y avait le tour d'aller chercher la souffrance à quelque part qu'un peuple pouvait apporter, puis toujours l'injustice qui est en arrière
le
de tout ça.
Le témoignage, en fait.
C'est témoignage.
C'est de la photo-témoignage.
De l'être humain. Tu sais, on est des gens ambigus à quelque part parce que ça nous touche tellement, l'injustice, puis qu'on travaille avec ça, puis on essaie de trouver toujours la richesse de chacun des peuples, parce qu'ils ont une richesse interne incroyable, là, une résilience que nous, on n'a pas idée, là, parce qu'on n'est pas habitué de vivre ces situations-là. Mais c'est l'ambiguïté, c'est on aime ces personnes-là, mais je veux pas dire que j'aime qu'ils soient pauvres. Comprends-tu? C'est tout un mélange d'émotions qui est très grande pour moi, ça. C'est mais je voudrais donc travailler à qu'il n'y ait plus d'injustice. Mais je le vois très bien. Ça a été de désillusion en désillusion. Il y aura toujours une partie d'êtres humains qui sont là pour attraper tout ce qu'ils peuvent attraper, puis faire subir aux gens sans conscience là-dessus.
On peut pas avoir un impact sur tous ceux-là, mais
non.
Ceux dans l'organisme, entre autres, que vous avez créé, et ce que vous permettez que les jeunes et les moins jeunes et les familles vivent pour prendre conscience des choses et qu'après ça, eux vont transporter cette prise de conscience-là plus loin. Vous êtes un acteur de changement.
Oui. Ben,
dans la chaîne.
Tout le monde.
Oui.
Oui, c'est une histoire d'équipe.
Oui.
Ben, c'est une histoire de famille, en fait. Parce que c'est toutes les places que j'ai faites, puis que j'ai refaites, là, j'ai des familles qui sont là, puis je sens que je fais partie de la famille, tu sais, puis pour moi, ils font partie de ma famille de cœur, en tout cas, c'est certain. Moi, j'ai toujours reçu la clé de la madame de sa maison, en cas qu'elle soit pas là quand je vais revenir, tu pourras rentrer quand tu vas vouloir, tu sais. Et quand tu continues pas ces relations-là, m'a dit que la culpabilité te rentre un peu dedans. Mais oui, j'ai des familles, c'est vraiment de l'amour, hein. C'est,
oui.
Il n'y a pas d'autre chose que ça.
Steve Lemoine, c'est comme ça qu'on termine notre rencontre.
Mon Dieu, c'est vite.
Mais merci beaucoup d'avoir partagé ces pages de vie avec nous, avec l'auditoire. C'était très apprécieux.
Merci à vous.
Merci à Mario Blouin pour les musiques et à Berthold Bernier pour la réalisation technique. C'est Danny Benz au microphone. À bientôt.
Vous venez d'entendre Curriculum Vitae.